Chapitre 3. J'avais pensé de lire jusqu'au verset 11 ce matin, et pour la deuxième réunion, le restant du chapitre. Juges 3. Et ce sont ici les nations que l'Éternel laissa subsister, pour éprouver par elles Israël, savoir tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Et cela seulement afin que les générations des fils d'Israël connussent, en l'apprenant, ce que c'est que la guerre, ceux du moins qui auparavant n'avaient rien connu. 5 princes des Philistins et tous les Cananéens et les Sidoniens et les Éviens qui habitaient dans la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ils étaient laissés pour éprouver par elles Israël, pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel qu'il avait commandé à leur père par Moïse. Et les fils d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Éthiens et des Amoréens, et des Phérésiens et des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, et donnèrent leurs filles à leurs fils, et servirent leur Dieu. Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et servirent les Baals et les Achères. Et la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les vendit en la main de Cushan-Rishathaïm, roi d'Aram-Naharaïm. Et les fils d'Israël servirent Cushan-Rishathaïm 8 ans. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel suscita aux fils d'Israël un sauveur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère finé de Caleb. Et l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, et il jugea Israël, et il sortit pour la guerre, et l'Éternel livra en sa main Cushan-Rishathaïm, roi d'Aram, et sa main fut forte contre Cushan-Rishathaïm. Et le pays fut en repos 40 ans, et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Jusqu'ici la lecture de la parole. Si le Seigneur nous donne encore d'autres occasions pour l'étude de la parole, c'est peut-être pas l'intention de prendre de passages aussi courts, mais je pense pour commencer le sujet, après l'introduction qu'on a eue la dernière fois, c'est bon de voir un peu si ça va, tous les détails, puis ça va aider aussi pour les études suivantes. Donc, chapitre 3 au début se lit, parce que nous avons lu, avec le chapitre 2. Ça se lit au chapitre 2. On pourrait dire, dans chapitre 1, nous avons vu le déclin, on a vu les ressources que Dieu donne pour habiter dans le pays. Juste pour reprendre la pensée, nous voyons ici le peuple d'Israël dans le pays promis. Et nous avons vu que ces choses nous parlent de nous-mêmes. Pour comprendre ceci, on devrait étudier le livre de Josué, aussi Deutéronome, parce que Deutéronome parle beaucoup du pays. Et Josué nous montre l'entrée du pays. On en a parlé au début des juges. Et dans les juges, ils sont dans le pays, pas seulement pour le vaincre, mais pour y habiter et pour avoir du fruit dans le pays, pour récolter ses fruits, pour offrir ces choses à Dieu, premièrement, et pour en jouir individuellement et par famille, par ville. On a parlé des liens qui existent dans le pays. Il y a les foyers, il y a les villes qui nous parlent des rassemblements, peut-être. Les tribus, encore un aspect différent, où on est liés ensemble, tout comme faisant partie du peuple de Dieu. Et ainsi, selon le plan de Dieu, Dieu a réservé quelque chose du pays pour chaque membre du corps, pour chaque croyant. Il a réservé une portion du pays. Et, par contre, il faut prendre en possession, ensemble, le pays. Il faut prendre en possession notre portion aussi, ce que Dieu nous a confié spécifiquement. Tout cela, on trouve dans Josué. Voilà, le peuple de Dieu est là, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu avait le plan pour les avoir là. Dieu voulait les avoir pour la satisfaction de son cœur. Il avait créé ce peuple pour sa propre gloire, pour que eux puissent le louer et le bénir dans ce pays. Voilà, Dieu nous a donné une place dans le ciel déjà, en Christ, Éphésiens 1. Et d'autres passages en Éphésiens. Mais il y a beaucoup de puissances qui veulent nous ôter cette jouissance de ces bénédictions. Nous sommes encore sur la terre. Dieu nous donne ces bénédictions comme étant sur la terre. Nous sommes occupés des choses qui réjouissent le cœur de Dieu, selon le plan de Dieu, selon le conseil de Dieu, selon le propos de Dieu. La vie éternelle qu'il avait promise avant la fondation du monde, 2 Timothée 1, Tite 1, on le voit. Puis ces choses-là, Dieu partage déjà maintenant avec nous. Et ce que l'ennemi hait, c'est que Dieu puisse recevoir sur la terre la louange et la bénédiction de la part de ses rachetés. Il va faire toutes sortes de choses pour empêcher ce résultat. Donc, empêcher la jouissance du pays. Il va donc attaquer, par exemple, la récolte. Il va attaquer le peuple qui habite là, afin qu'il ne puisse pas jouir de ses bénédictions. Maintenant, nous avons vu donc l'infidélité du peuple. Et cela nous parle aussi parce que nous ne sommes pas meilleurs que le peuple d'Israël. Nous avons les mêmes faiblesses. Et dans Juges 1, on a vu donc, d'un côté, les ressources qui sont là, même à la fin de la dispensation, même si tout manque, il y a ces ressources disponibles pour le peuple de Dieu. Toujours. Deuxièmement, nous avons vu donc une longue liste de 10 points selon leur responsabilité où il en manque. C'était donc du point de vue de l'homme. Maintenant, dans le chapitre 2, on voit un peu un point de vue différent. On voit là ce que l'Éternel a fait. Il a attendu longtemps. Et puis, nous avons vu comment la position publique change. Ils ont abandonné Gilgal. Cet après-midi, on espère parler de Gilgal un peu, dans le chapitre 3. Mais le peuple comme tel avait abandonné Gilgal. Et Gilgal, c'est vraiment le point de départ pour jouir du pays. Peut-être on en parlera un peu cet après-midi. Ce qu'on trouve aussi dans Josué 5, c'est vraiment à l'entrée du pays, avant que les combats commencent pour prendre possession du pays, c'est Gilgal le point de départ. Mais le peuple avait abandonné ce point de départ. Ils ne se sont plus jugés eux-mêmes. Une des leçons de Gilgal, c'est que Dieu avait placé là les 12 pierres qui nous parlent de la mort avec le Seigneur Jésus et maintenant introduit dans ce monde de la résurrection. Ce sont les pierres, les 12 pierres placées à Gilgal. Et deuxièmement, là, il était circoncis. C'était la mise de côté de la chair, pratiquement. La reproche de l'Égypte était ôtée. Donc, il était libre de l'influence de ce monde, l'Égypte, système indépendant de Dieu. Là, il avait fêté la Pâque qui nous parle donc justement de l'agneau de Pâques pour nous délivrer, excusez-moi, pour nous protéger contre le jugement de Dieu. Et aussi, c'est la base pour la délivrance, comme on voit dans Exode 12 à 15. Et d'autres choses, ils ont eu le fruit du pays, le vieux blé du pays. C'est ça qu'ils ont eu dans Josué 5, pour la première fois. Donc, ils ont joui du fruit du pays. Et puis là, Josué a rencontré le chef, le Seigneur Jésus lui-même. Gilgal, c'est une place très importante, mais ils ont abandonné cette place. Ils se sont liés à ces dieux du pays, ces nations du pays. Et ainsi, ils se sont engagés dans l'idolâtrie de ce pays. Et tout cela a donc ôté la jouissance des bénédictions du pays. Cela a aussi empêché que Dieu puisse recevoir du fruit de la part du peuple. On a vu que pendant les jours de Josué, tout allait bien encore. Quoique Josué les ait avertis. Si vous voulez étudier Josué 23 et 24, vous pouvez voir que Josué les a avertis beaucoup et qu'il avait dit s'ils s'associaient avec ces nations-là, il y aurait donc des mauvaises relations et des conséquences très, très pénibles. Après le départ de Josué, encore, ces anciens avaient une bonne influence pour tenir loin le mal, disons. Mais on a vu aussi un parallèle maintenant avec l'histoire de l'Église. On a vu que Josué et ses anciens nous parlent de la génération des apôtres. Et même à la fin, où seulement Jean a vécu encore, on voit pleinement le déclin. Et Dieu a donné les écrits de Jean pour nous donner des remèdes contre le déclin, justement. Je pense qu'il mentionnait 1 Jean 5, verset 21, la dernière fois. « Enfin, gardez-vous des idoles. » On va revenir à ce passage-là parce que c'est important. Jean nous donne les remèdes contre le déclin. Mais le déclin était déjà là avant son départ. Et ainsi, cette troisième génération était là. Et puis, il y a trois points qu'on voit en rapport avec cette troisième génération. Verset 10, chapitre 2, verset 10, « qui ne connaissait pas l'Éternel. » Ok? Là, ça veut dire qu'il n'avait pas de connaissance personnelle de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que toutes ces générations n'étaient pas nées de nouveau. Peut-être ça veut dire aussi. Mais on peut l'appliquer pour nous dans ce sens-là. S'il y a des âmes qui sont nées de nouveau, il faut aussi une œuvre de Dieu. Dans ce sens-là, il faut connaître l'Éternel. Il faut avoir des expériences avec l'Éternel. Ça, c'est vraiment la signification. Eux n'avaient pas d'expérience avec l'Éternel, comme les pères qui étaient délivrés de l'Égypte, qui étaient dans l'esclavage, qui avaient vu les œuvres de l'Éternel pour la délivrance et pour les protéger dans le désert, pour les nourrir, les diriger, tout cela. Le deuxième point, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Vous voyez, ça implique tout cela, la sortie de l'Égypte jusqu'à l'entrée du pays et la prise de possession du pays. Et puis le troisième point de cette génération, verset 1 dans chapitre 3, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Donc cette génération n'avait pas même connu les guerres nécessaires pour prendre possession du pays. Donc ces trois points sont mentionnés avec, en rapport avec cette troisième génération. Nous avons mentionné la dernière fois que la troisième génération peut devenir, pour ainsi dire, une deuxième génération. S'il écoute, s'il paye un prix pour s'approprier ces choses, vous voyez. Si nos parents ont pris une position pour le Seigneur, disons, ils ont quitté un système idolâtre, ce sont eux qui ont payé ce prix. Leurs enfants, qui sont nés de nouveau plus tard, n'ont pas payé ce prix. Mais il faut que ces enfants prennent possession spirituellement de ces choses aussi. Chaque génération doit prendre possession de ces choses. Et ainsi, dans un sens, payer le prix. Donc, s'approprier ces choses. Et chaque génération doit apprendre. Et ce que j'aimerais montrer maintenant, un point qu'on voit ici. D'un côté, on voit donc les manques, on voit le déclin. Mais maintenant, ce chapitre 3 nous mentionne une autre raison pourquoi Dieu a permis que les nations restent là, pour former maintenant les nouvelles générations. Donc on voit d'un côté, comme résultat de leur infidélité, les nations sont là, Dieu ne les a pas exterminées. C'est donc vraiment très grave, parce qu'à cause de cette infidélité, ces nations resteraient toujours là. Ils ne pouvaient jamais se débarrasser 100% de ces nations-là. Et on voit ça aussi dans l'histoire de l'Église. Le mal, une fois pénétré, resterait toujours là, Matthieu 13 par exemple, jusqu'à la fin. Et ceci est montré dans chapitre 2, verset 3, « Leurs dieux vous seront en piège, et je ne les chasserai pas devant vous. » Donc, ça c'est à cause de leur infidélité. Mais le point que j'aimerais maintenant montrer dans le chapitre 3, Dieu est en contrôle, même là, Dieu est au-dessus de tout. Et Dieu se sert même de ça, de cette infidélité, pour maintenant donner une occasion à la prochaine génération pour revenir à l'Éternel, pour puiser toutes les ressources en lui. Vous voyez, c'est ça le point, chapitre 3 maintenant. Afin que les générations, verset 2, afin que les générations des fils d'Israël connussent en l'apprenant ce que c'est que la guerre. Donc en autre mot, il fallait qu'ils aient le même exercice que les pères avaient eu en prenant possession du pays. Il fallait qu'il ait le même exercice, quoi qu'il soit dans le pays, quoi qu'il reste là, il habite là. Il fallait qu'il ait les mêmes exercices qu'au début. Et Dieu se sert donc des attaques de ces nations qui sont restées là pour les forcer, pour forcer ces générations à apprendre cette guerre. C'est donc un combat pour nous, c'est un combat spirituel. On a compris ce principe-là lorsqu'on parle de ces choses qui ont eu lieu littéralement dans ces jours-là, ces choses ont une signification spirituelle pour nous. Ça, c'est clair, autrement. On ne peut pas suivre, on ne peut pas sortir et aller tuer les gens littéralement comme dans ce jour-là. Dans ce jour-là, c'était la pensée de Dieu que ce soit le cas. Et à part ça, je mentionnerai aussi que ces choses ont une signification prophétique pour Israël. On voit dans Josué, comment dans les jours de Josué, ils ont pris possession du pays. Une prochaine génération future d'Israël va prendre possession sous la direction du Seigneur Jésus du pays, va chasser tous les ennemis. On a vu donc dans chapitre 2 le plan de ce livre. Chaque fois, il y aurait un déclin. Dieu, le verset 11 nous le montre, dans chapitre 2, « Et les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Ils servirent les Baals. » Le deuxième point, la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, verset 14. Et puis là, ils ont crié. On va voir ça aussi dans chapitre 3. Et puis là, le quatrième point, lorsqu'il était donc dans cette grande détresse, Dieu leur suscita des juges. Et puis, il donnait donc une délivrance, verset 18 aussi. Mais, verset 19 nous montre qu'ils sont retombés plus tard au même niveau, dans un sens plus bas, parce qu'après cette délivrance, ils se sont corrompus de nouveau. La prochaine génération ne savait pas ça. Et est arrivée encore sur un niveau plus bas. Donc, le Seigneur a laissé ces nations-là pour les éprouver, chapitre 2, verset 22, afin d'éprouver par elles Israël, s'ils garderont la voie de l'Éternel pour y marcher. Donc, on a vu, il les a laissés là à cause de leur infidélité, mais maintenant, pour la prochaine génération, c'est de nouveau un test. C'est de nouveau un test si eux vont se soumettre à ces influences mauvaises ou s'ils vont revenir à l'Éternel pour puiser leurs ressources en lui, pour garder la voie de l'Éternel, pour y marcher. C'est donc un test. Et deuxièmement, le mot éprouver veut dire aussi que c'était donc pour les punir à cause de leur infidélité. Ces deux pensées sont là. Maintenant, un point que j'aimerais souligner, c'est le principe général. De quoi ces nations nous parlent vraiment? J'ai mentionné déjà, ces nations veulent ôter la jouissance du pays, veulent ôter les bénédictions du pays au peuple de Dieu afin qu'il n'y ait pas de résultat pour Dieu. Mais il y a donc des influences différentes. Et on va voir, d'un côté, il y a des influences de l'extérieur qui sont venues même de notre pays, on en parlera un peu plus loin, ou bien des nations qui habitaient là dans le pays. On va voir aussi que tout cela a à faire avec l'état moral du peuple eux-mêmes. Donc, on va parler aussi de la chair. Mais le point à saisir maintenant, le verset 3, ces nations étaient là pour avoir ce pays pour eux-mêmes. Ils ne voulaient pas donner la gloire à Dieu. Ça, c'est une pensée importante. Je pense, ce qu'on voit dans ce monde comme principe, on veut jouir de ces choses que Dieu a créées sans reconnaître qu'il est le Créateur, sans lui donner gloire comme Créateur. Et si nous, comme croyants, suivons les mêmes principes, on est donc sous l'influence de ces choses-là. On peut facilement se placer sous l'influence de ce monde, un esprit de mécontentement, dissatisfaction, ne pas vouloir donner la gloire à Dieu, usurper les choses de Dieu comme si tout cela nous appartenait. Et tous ces principes-là. Donc les nations en général nous parlent d'influences ou des influences différentes pour que le peuple de Dieu ne jouisse pas vraiment de ces choses selon les pensées de Dieu. Et Dieu permet ces choses-là, il permet ces influences à cause de l'infidélité du cœur. Si moi je ne juge pas la chair, Dieu va permettre certaines influences qui prennent possession de moi, mais c'est le résultat de l'infidélité du début que je ne voulais pas juger la chair. Ok, on va revenir à ça. Verset 2 nous montre donc ce principe du combat, de la guerre. On n'aime pas la guerre. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande l'attention, ça coûte beaucoup, n'est-ce pas? Et on voit ici donc que le combat spirituel est nécessaire pour chaque génération. Je répète, pas seulement pour prendre possession du pays, mais pour y rester, pour y habiter. Et si vous voulez étudier ce principe-là, c'est Éphésiens 6, où nous voyons, dès le verset 10, les puissances de l'ennemi dans le pays et ce que nous pouvons faire pour faire face à ça. Éphésiens 6, dès le verset 10, qui nous parle de l'armure de Dieu. Tout cela, nous avons besoin de cela pour tenir ferme, pour ne pas perdre la jouissance du pays, vous voyez. Donc ainsi Dieu veut nous instruire, nous enseigner la guerre, selon Éphésiens 6, pour que nous puissions continuer à jouir de ces bénédictions du pays, que nous ne perdions pas ces choses, et afin qu'il y ait aussi du fruit pour Dieu. Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père ». C'est le résultat de la jouissance des bénédictions. Mais l'ennemi veut ôter ça. C'est pour ça qu'on doit apprendre cette guerre pour rester ferme, pour tenir ferme, pour ne pas lâcher, pour ne pas laisser tomber dans l'eau, pour ainsi dire, ces choses que Dieu nous a données. On va revenir donc au caractère de ces nations différentes. Verset 3 nous mentionne 5 nations, les Philistins. Ils sont mentionnés aussi à la fin du chapitre 3. Mais on va revenir à ça surtout dans l'histoire de Samson. C'est l'ennemi le plus dangereux parce que les Philistins habitaient dans le pays. Et aussi les Cananéens sont dangereux. On va revenir à ça dans chapitre 4, Dieu voulant. Et les Sidoniens étaient au nord du pays. Les Éviens, on les a vus dans... Mais si vous étudiez Josué, vous pouvez voir ça dans Josué 9. Et puis un peu plus loin, on va voir encore d'autres nations qui étaient là. Verset 5. Avant de commencer au verset 5, peut-être verset 4 à la fin, Dieu avait laissé ces nations-là pour éprouver le peuple, comme nous avons vu, pour savoir s'ils écouteraient les commandements. Dieu les met au test, il les éprouve. On voit le même principe dans le désert. Deutéronome 8, c'est comment Dieu a éprouvé son peuple dans le désert, pour leur faire du bien à la fin. Si Dieu nous éprouve, s'il nous met au test, c'est pour nous faire du bien. Ici, c'est pour savoir s'il écouterait les commandements. C'est une question d'amour. Vous voyez, c'est pas seulement une question d'autorité. J'aimerais revenir maintenant, en rapport avec ceci, à ces deux principes-là. Le peuple s'est placé sous l'influence des Baal. On a vu ça dans Juges 2, verset 12. Baal nous parle du principe d'autorité. Dieu était le vrai Baal. Dieu est appelé Baal dans l'Ancien Testament. Il veut dire mari ou maître ou seigneur. Ça parle donc de son autorité. Et chapitre 3, verset 4, pour savoir s'il écouterait les commandements de l'Éternel, ça nous parle donc de cette autorité. Il avait le droit qu'il écoute. Mais eux se sont placés sous l'influence des Baal. Okay? Donc, on reconnut une autre autorité, un autre possesseur, un autre maître, un autre mari. Le deuxième principe, c'est la question de l'amour. Et ça va ensemble avec les commandements. Cela m'a frappé beaucoup en étudiant les écrits de Jean, de voir qu'il y a un parallèle intime entre l'amour et les commandements. 1 Jean 5, par exemple, nous montre ceci. On garde les commandements de Dieu par amour pour lui. Il y a une différence, c'est évident. Ici, ce sont les commandements de la loi, de l'ancienne alliance, tandis que les commandements dans 1 Jean 5, c'est de notre ordre. Il y a cette différence, il faut garder ça en mémoire. Mais il y a un parallèle aussi. Le principe que je peux montrer en parallèle, c'est accepter l'autorité de Dieu, accepter ses droits, par amour, et par amour, garder ses commandements. Ça, c'est le parallèle. Comme on voit dans le psaume 1, par exemple, le Seigneur Jésus a gardé, il a médité la loi, il a gardé les commandements. Donc, Dieu les met au test ici. Et puis, on voit, en rapport avec ceci, des manques. Ils ont manqué à obéir, ils ont manqué dans leur amour. Et je pense, j'ai mentionné ce point-là dans Apocalypse 2, l'Église a abandonné son premier amour. Ça ne veut pas dire que l'Église n'a plus aimé, mais ils ont remplacé l'objet de leur amour. Au lieu de servir le Seigneur Jésus, ils ont choisi un autre maître. Au lieu de l'aimer, ils ont aimé d'autres principes, d'autres influences. Et c'est ça qui arrive facilement dans nos vies aussi, que nous mettons de côté l'autorité de l'Éternel et que nous ne l'aimons plus. Nous ne l'aimons plus dans la même façon qu'au début, et c'est parce que si notre attention est dirigée à d'autres choses, notre amour est placé à d'autres choses, dans cette mesure-là, on va perdre l'amour pour le Seigneur. Donc, Apocalypse 2, on voit ce principe, le point de départ, manque d'amour. Et ça va ensemble avec le manque de reconnaissance de ses droits. Ces deux principes, je voulais encore placer devant nos cœurs, parce que ça va ensemble, comme on le voit dans Juges 2, et maintenant aussi dans ce chapitre 3, verset 4, pour savoir s'il écouterait les commandements. Question d'autorité, question d'amour. Maintenant, on peut commencer avec ce premier passage qui nous parle donc de ce premier cycle, disons. On a vu le plan dans Juges 2, comment ça se répéterait toujours. Et on voit ici, dans le verset 5, les fils d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens. Donc les Cananéens sont mentionnés ici au début. C'était le pays promis, le pays de Canaan. Et on voit déjà dans Genèse 9, que Canaan était maudit, c'était une race maudite. Et ainsi, les influences autour de nous aussi, pour nous ôter la joie de ces choses, ces bénédictions célestes, ça vient dans ce sens-là d'une race maudite. Ce sont les démons qui prennent le dessus, qui veulent ôter la jouissance de ce pays aux chrétiens, au peuple de Dieu. Mais ce n'est pas seulement ça. On voit la signification du nom Canaan ou cananéen, veut dire marchand. Et là, on voit que facilement, sous l'influence des démons, ils pénètrent des principes dans l'Église. Comme on le voit dans le livre des Actes, Simon le Grand voulait acheter le droit pour imposer les mains et donner l'Esprit Saint. Et puis, ils pensent, en étudiant, ça leur donnerait de l'influence sur le peuple de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais d'étudier, mais si on pense, à cause de ça, qu'on puisse avoir une certaine influence sur le peuple de Dieu, par la connaissance intellectuel seulement, c'est pas selon les pensées de Dieu. Ainsi, on voit donc des principes dans ces nations, des principes avec lesquels nous avons affaire, comme les Éthiens, ça veut dire les fils du terreur. Dans l'histoire de l'Église, on voit que certains gens se sont imposés aux autres, ont influencé ainsi le peuple de Dieu. D'autres principes dans les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens sont donc des nations littérales dans ces jours-là, mais qui nous parlent des principes qui peuvent nous influencer, parce que ces principes sont autour de nous. Nous sommes en danger d'être influencés par la façon de penser de ce monde, ou de ce monde religieux. Et c'est pour ça que Dieu avait dit par Moïse déjà qu'il devrait être séparé, ne pouvait pas se lier à ces nations-là. À plusieurs reprises, on voit cela dans les écrits de Moïse, je mentionne Deutéronome 28 et aussi Lévitique 26, où Dieu les avait avertis contre ça. Et aussi, je pense déjà dans Deutéronome 7, il avait mentionné ceci. Ils posséderaient donc ce pays-là. Et verset 2, « L'Éternel, ton Dieu, les aura livrés devant toi et que tu les auras frappés. Tu les détruiras entièrement comme un anathème. Tu ne traiteras point alliance avec elles et tu ne leur feras pas grâce. » Ok, on a vu donc par l'infidélité du peuple, Dieu les a laissés, là, ces nations-là, dans le pays. Et puis, maintenant, l'autre point s'applique, verset 3, « Tu ne t'allieras point par mariage avec elles. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. » Là, dans ce jour-là, c'était donc littéralement le cas. Aujourd'hui, ça parle donc de certains principes qu'on ne doit pas absorber ou accepter. Mais ça peut s'appliquer aussi dans ce sens-là, de ne pas donner nos enfants à ces choses-là, à ces influences-là. Et puis, dans le Nouveau Testament, on voit les mêmes instructions dans 2 Corinthiens 6, d'être séparé de ce monde, de ne pas se placer sous l'influence de ces principes-là, ou bien s'associer avec ces choses-là, ou ces principes-là, ou ces nations. 2 Corinthiens 6 nous parle du même principe. Et là, si vous voulez étudier, on trouve 5 points. À 5 reprises, l'apôtre le répète d'une façon différente. Il le présente du point de vue économique, par exemple. Il y a des liens économiques ou sociaux avec le monde qui peuvent nous influencer. Ou des liens religieux, par l'idolâtrie ou quoi que ce soit. Ou des liens d'amour. Et tous ces liens nous mettent en esclavage, comme on le voit ici. Verset 6. Ils prirent leur fille pour femme et donnèrent leur fille à leur fils. C'était la ruse de Balaam aussi, de placer cette possibilité devant Israël par l'intervention de Balak dans Nombre 25, et ils sont tombés dans ce piège. Dans Galates 6, verset 14, on voit cette barrière, cette frontière entre nous et le monde, c'est la croix. La croix fait qu'il n'y a aucun lien entre nous et le monde, entre le peuple de Dieu et le monde. Puis ce verset peut nous aider à saisir qu'il y a une séparation distincte entre le monde et nous. Le monde a crucifié le Seigneur Jésus. Voilà. Si c'est le cas, je ne peux rien avoir à faire avec le monde. Mais ça va plus loin encore. Moi, je suis crucifié. Moi, je suis identifié avec la croix de Christ. Donc, je suis aussi crucifié au monde. Ça va beaucoup plus loin. Ce principe-là, c'est pour montrer que nous ne pouvons avoir rien à faire avec le monde. Et Jacques 4, verset 4, nous parle aussi de ce point-là, que nous ne pouvons pas être des amis avec le monde. Autrement, on serait des ennemis de Dieu. Et puis là, il parle aussi de l'adultère. Il parle d'adultère. Il parle là donc d'un principe qu'on voit qui va ensemble. Ce n'est pas seulement une question d'influence ce monde, c'est une question d'amour qui va remplacer notre amour pour le Seigneur. Notre attention est maintenant dirigée à d'autres objets et ces objets sont chéris maintenant au lieu du Seigneur Jésus. Et ainsi, on devient un ennemi de Dieu, pratiquement. C'est très grave. Ainsi, les chrétiens, ou dans l'histoire de l'Église, ils sont devenus des ennemis de Dieu, pratiquement. Et si c'est le cas, Dieu se change aussi. Il devient un ennemi aussi. Ça, c'est un principe que j'aimerais souligner. Dans Ésaïe 63, nous avons la prière d'Ésaïe, mais il donne un résumé de tout ce que l'Éternel a fait. Mais dans Ésaïe 63, verset 8, et il dit, certainement, ils sont mon peuple, des fils qui ne mentiront pas. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. De son côté, tout était correct. C'était son peuple. Et il est devenu leur sauveur. C'est très beau de voir ça, de nouveau. Il est devenu leur sauveur. Donc, on peut l'appliquer à nous aussi. Il est devenu notre sauveur. Mais il est devenu aussi leur sauveur pour les libérer de l'influence de ce monde, sauveur pour dans le désert et tout ça. Et verset 9 nous le montre, dans toute leur détresse, il a été en détresse. Et l'ange de sa face les a sauvés. Vous voyez, lorsque ils étaient en détresse, n'importe quelle cause, soit en Égypte, soit dans le désert, soit dans le pays, Il a été en détresse parce que c'était son peuple et l'ange de sa face les a sauvés. On a vu l'ange dans Juges 2. Voilà, l'ange de sa face les a sauvés. Ça, c'est ce que Dieu veut faire, même si c'est notre faute, même si nous avons commencé à servir les idoles ou quoi que ce soit. Même là, il veut nous aider. Mais si nous nous endurcissons, si nous ne voulons rien savoir de lui, dans ce cas-là, le verset 10 s'applique, vous voyez. Mais ils se rebellèrent. C'est ça qu'on voit plusieurs fois dans le livre des Juges. Ils l'ont rejeté volontairement. Ils ne voulaient rien savoir de ses commandements et de son amour. Ils contristèrent l'esprit de sa sainteté. C'est ça qu'on voit dans le livre des Juges. Et c'est ça qui peut nous arriver aussi, que nous nous endurcissons contre Dieu, contre son esprit de sainteté, de sa sainteté. Et il se changea pour eux en ennemi. C'est ça qu'on voit. Lui-même, il combattit contre eux. Ce principe-là, on voit. Donc, je répète, dans 1 Jean 5, verset 21, on voit ce principe-là. Enfin, gardez-vous des idoles. C'est un danger réel. C'est pour nous aussi un danger réel. Les idoles prennent la place de Dieu, prennent la place de son autorité, prennent la place de notre amour envers lui et qui nous font dévier de ce bon sentier, comme nous avons vu. Et puis, il va nous avertir. Il est prêt pour nous aider, même là, si c'est notre faute. Il veut nous porter tous les jours. Mais ils se rebellèrent, vous voyez, et c'est ça qu'on a maintenant dans Juges 3, verset 7. Les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Je pense que ça veut dire Dieu les avait avertis. Il avait donné les avertissements, comme nous avons vu dans Deutéronome et d'autres passages, par Josué, par des prophètes, sans doute aussi dans ce jour-là, mais ils sont endurcis. Et là, Dieu envoie donc, verset 8, ses ennemis. Okay? Verset 7, les fils d'Israël firent ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, on a parlé de ça, manque d'obéissance, manque d'amour. Ils n'étaient plus l'objet de leur attention, le centre de leur affection, leur Dieu, et servirent les Baals. Ils sont devenus des esclaves de ces Baals qui prennent la place de Dieu, de son autorité, comme nous avons vu, et les achèrent. Ces deux principes, on en a parlé déjà. Verset 8, la colère de l'Éternel s'embrasa contre Israël, et il les vendit en la main de Cushan-Rishathaïm. Vous voyez le parallèle avec Ésaïe 63, verset 10, il s'est changé en ennemi contre eux. C'est lui qui les a placés maintenant sous la main de Cushan-Rishathaïm. On le voit aussi dans la profession chrétienne, cet endurcissement. Et aujourd'hui, dans nos jours, surtout, on voit ce mouvement du Nouvel Âge qui, c'est comme une inondation sur toute la chrétienté dans les pays occidentaux. À cause de cet endurcissement, Dieu permet maintenant cette inondation, que l'ennemi prenne possession du peuple de Dieu. On voit aussi ce même principe dans Romains 1 déjà. Lorsque l'idolâtrie a été introduite, les nations n'ont pas écouté Dieu comme créateur et comme juge. Il les a délivrés à ces choses infâmes. Trois fois on lit ce principe-là. Il les a délivrés à ces choses-là. Et ainsi, dans nos jours, on voit que Dieu délivre simplement la profession chrétienne à cause de l'infidélité entre les mains de ses influences. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes libres de tout ça. Nous sommes dans les mêmes dangers. Et maintenant, on pourrait se demander, qu'est-ce que ça veut dire Cushan-Rishathaïm, roi d'Aram-Naharaïm? Il faut savoir que Abraham était dans ce pays-là. Abraham était sorti de ce pays-là. Okay? On peut le voir dans la note aussi, Syrie des deux fleuves, Mésopotamie. D'abord, le mot Syrie ou Aram veut dire élevé. C'est donc là où l'homme prend une place élevée. Au lieu que Dieu soit sur le trône, l'homme est sur le trône. Okay? C'est le premier principe. Deuxième principe, Rishathaïm veut dire double méchanceté. Dans Genèse 10, on voit que cette région-là était une région caractérisée par Nimrod, la violence. Et dans Genèse 11, on voit que cette région-là était caractérisée par la corruption. C'était là où Babel était construit, les autres villes de Nimrod. Donc, cette double méchanceté, la violence et la corruption vont toujours ensemble. Et Cushan veut dire, Cush, c'est noir, noirceur. Cush était le frère Mitzrayim, veut dire l'Égypte. Mitzrayim est le père d'Égypte. Et je veux voir ici un parallèle entre l'Égypte et la Mésopotamie. Les deux nous parlent du monde, mais d'un point de vue différent. Cushan-Rishathaïm était roi d'Aram-Naharaïm, de cette région appelée Mésopotamie, dans le grec, Syrie des deux fleuves. Mais il y a un parallèle avec l'Égypte. L'Égypte, son fleuve donnait la prospérité à ce pays-là. Et le pharaon pensait que lui était à l'origine de ce fleuve, à l'origine de toutes ces bénédictions. Ainsi, on voit que l'homme prend la place de Dieu. L'homme pense que lui est le maître de toutes ces bénédictions. Voilà. L'indépendance de Dieu et utiliser ces choses dans l'indépendance de Dieu. Ça, c'est l'Égypte. On voit en contraste Deutéronome 11 que le pays d'Israël était nourri de la pluie des cieux. Égypte, c'était ses bénédictions étaient jouies dans l'indépendance de Dieu et par l'effort humain. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 11. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour arroser le pays, tandis que le pays promis était arrosé par la pluie du ciel, donc par la bénédiction de Dieu. Et dans Mésopotamie, on voit le même principe, l'influence de l'homme, mais plutôt le caractère religieux, comme on voit dans Babel, ou Babylone. C'est l'homme religieux, c'est là où l'idolâtrie a été introduite, Genèse 11. Et c'est là où cette double méchanceté habitait, la violence et la corruption. Et c'est là, de là, qu'Abraham était appelé. Voilà le lien maintenant avec notre sujet. Le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, était maintenant dans le pays promis. À cause de leur infidélité, Dieu permet qu'ils soient maintenant sous la même influence qu'Abraham était avant sa conversion, avant que Dieu l'appelle. Vous voyez? Et c'est un principe qu'on voit aussi dans Israël plus tard. À cause de leur idolâtrie, Dieu les a renvoyés à Babel, dans la captivité babylonienne. Et dans Zacharie, on peut le lire, Zacharie 5, je pense, que de là l'idolâtrie est venue, de là ils sont renvoyés dans captivité. Maintenant, ils restent dans le pays, mais ils sont maintenant placés sous la même influence du début, comme nous avons mentionné. Et nous sommes exposés à ces choses-là aussi. Quelquefois, je compare ce principe avec un bateau. Nous sommes comme un bateau dans les eaux. Si nous suivons les commandements de Dieu, si nous suivons les instructions de Dieu, tout est correct. Mais s'il y a un petit trou dans le bateau et l'eau va entrer, si ces influences de ce monde entrent, comme on a vu dans versets 5 et 6, le bateau va faire naufrage à un moment donné. Et c'est donc très important que nous soyons séparés de ces influences. Ici, à cause de leur infidélité, Dieu les vainc. Ils sont maintenant en esclavage de ces principes desquels Dieu avait délivré Abraham, leur père. Dans Acte 7 et dans Josué 24, si vous voulez étudier ça, vous pouvez voir qu'Abraham était là, habitait là, était aussi un idolâtre. Et verset 8, à la fin, les fils d'Israël servirent Cushan Rishathaim 8 ans. Donc, le principe que j'aimerais souligner ici, je pense, c'est le monde. On va voir dans cet après-midi, Dieu voulant, un autre principe, c'est la chair, d'un caractère spécial. Et dans chapitre 4, le roi de Canaan, Jabin, une image spéciale de Satan. Et vous savez déjà que le chrétien a affaire avec ces trois puissances, le monde comme système, idolâtre, la chair et aussi Satan. Le monde, c'est contre les pensées de Dieu. Et de nouveau, je vais revenir à 1 Jean, parce que dans 1 Jean 2, nous voyons comment les chrétiens ont un combat à faire. 1 Jean 2, verset 13, au milieu du verset 13, nous voyons, « Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le méchant. » Voilà, double méchanceté, on a vu. Le méchant, avec son système, est venu. Le monde dirigé par le méchant. Le monde religieux même, mais dirigé par le méchant. Et puis, verset 14 à la fin, c'est répété. La parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le méchant. N'aimez, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc le monde s'oppose contre le Père, surtout. Le Père a des ressources en lui-même. Le Père est à l'origine d'un système de bénédiction. Et puis, en opposition de lui, est le méchant. Le père de méchanceté ou de double méchanceté. Il a oui, aussi son système à lui, un système idolâtre religieux contre Dieu pour influencer donc le monde, pour le garder en esclavage. Verset 16, parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père. Si vous voulez étudier, on peut retrouver ces principes déjà dans Genèse 3, la chute. Verset 6, on voit les trois choses mentionnées. Eva, et plus tard Adam aussi, a vu ces choses-là, et ont eu le goût, puis ont mangé. Ces trois principes on voit déjà dans Genèse 3. Et puis les mêmes principes sont encore utilisés par l'ennemi pour nous mettre en esclavage. C'est pour ça qu'on a besoin d'être des vainqueurs, et c'est pour ça qu'on va revenir à Juges 3, parce que là, justement, on a un vainqueur. Un vainqueur qui s'est fortifié dans les remèdes, dans les ressources que Dieu donne. Mais je voulais juste finir ce passage-là. Et le monde s'en va, et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On voit dans les écrits des gens les remèdes nécessaires pour résister à ces choses et pour être des vainqueurs. On va revenir maintenant à Juges 3, parce que là, justement, on a un vainqueur. Et ce qu'on voit dans le livre des Juges, ces vainqueurs-là ne sont pas vraiment des images du Seigneur Jésus, mais ils représentent des principes qu'on retrouve aussi dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus était le vrai vainqueur. Il était exposé à ces choses-là, dans Luc 4, on peut le voir, les mêmes principes, les trois principes qu'on a lus dans 1 Jean 2. Le Seigneur Jésus était exposé à ça. Il était le vainqueur parfait. Mais les vainqueurs qu'on voit dans les Juges sont des images du croyant pour résister à ces choses. Mais on voit donc les mêmes principes dans le Seigneur Jésus, ça c'est évident. Il y avait une grande différence. Le Seigneur Jésus n'avait aucun point de contact pour être affecté au mal, par le mal. Et nous, aussi longtemps que la chair est en nous, on est capable de pécher. Le Seigneur Jésus n'était pas capable de le faire dans ce sens-là. On voit ici donc un vainqueur, et je voulais d'abord montrer la différence de ces ressources. Le roi Kushan-Rishathaïm, il avait ces deux fleuves comme ses ressources. Qu'est-ce que Othniel avait comme ressources? On a vu dans Juge 1, ce terrain qu'il a vendu, qu'il a acheté, il a libéré, il a chassé l'ennemi de cette ville-là, et puis cette ville est mentionnée comme Kiryat Sefer, livre, donc ville du livre, auparavant Deber. Non, excusez-moi, c'était donc auparavant Kiryat Sefer, mais c'est devenu Deber. Et puis là, dans cette région-là, il a reçu ses terrains du Midi. Midi, c'est le pays du Midi, où le soleil brille. Il avait la lumière de Dieu là, et les sources d'eau. Les sources d'eau du haut, verset 15, et les sources du bas. On peut penser à ce que les chrétiens ont. Philippiens 3, on voit les sources du haut. Philippiens 2, on voit les sources du bas. Si nous sommes dans la vallée, on a des sources là aussi. On peut aussi penser aux écrits de Jean, que j'aimerais plutôt, parce que dans Jean 4, nous voyons les sources du haut, l'Esprit qui est venu et qui nous met en contact maintenant avec les sources qui sont dans la gloire, le ciel. Une fontaine de vie qui jaillira et donc qui monte au ciel, qui nous met en contact avec le ciel. Et puis les sources du bas, on peut penser à ces sources de Jean 7. Dans Jean 4, on voit l'influence du monde, le plaisir du monde. Puis ça peut jamais satisfaire. Les deux fleuves de Aram-Naraim peuvent jamais satisfaire. Les deux fleuves, donc le monde comme système de plaisir, ou le monde religieux, Jean 7, c'est le monde religieux, peuvent jamais satisfaire. Et dans Jean 7, le Seigneur Jésus donne les sources du bas. Il parle là de ces fleuves d'eau vive qui sortiraient du ventre de celui qui a bu de ces sources qui viennent du Seigneur Jésus. Donc là, on voit les ressources que Dieu donne aux vainqueurs. Othniel a connu ces ressources. Son nom veut dire lion de Dieu ou homme fort de Dieu. Il était donc vraiment préparé pour Dieu, par Dieu et pour Dieu. Et ainsi, il est devenu un sauveur. On voit dans verset 9, l'Éternel suscita. C'est la grâce de Dieu. Aucun mérite de la part du peuple, comme nous avons vu. C'est lui qui suscita aux fils d'Israël, donc pour leur bien. Il suscita ce juge, mais il était aussi un sauveur. Et on voit, je pense, 4 fois dans le livre des Juges, mais dans ce chapitre, 3 fois un sauveur. Ici, c'est la première fois. Et là, on voit donc le lien avec le Seigneur Jésus, le vrai sauveur. On voit le lien avec Ésaïe 63, verset 9, qui les délivra. Il les a mis donc en liberté avec sa puissance, selon son nom. Le fils de Kenaz. Kenaz veut dire force, ou en rapport avec force, ou peut-être aussi poursuivre. J'ai pensé à 2 Timothée 2, verset 22, où nous pouvons poursuivre, même dans un temps de déclin, comme le livre de Juges, on peut poursuivre ces principes-là, la justice, la paix et l'amour. C'est 4 principes qu'on trouve là dans 2 Timothée. Poursuivre, et ainsi on peut devenir un vrai Othniel. Maintenant, un point que j'aimerais toucher brièvement, il était le frère puiné de Caleb. Excusez-moi, le fils de Kenaz, frère puiné de Caleb. Ça veut dire donc Othniel était plus jeune que Caleb. Peut-être il était le... En tout cas, il y a un lien avec Caleb. Caleb était, selon la signification de son nom, entièrement avec son cœur dans les choses de Dieu. En anglais, on dit « wholeheartedness ». Ça veut dire que tout son cœur était pour Dieu. On peut voir ça dans Josué 14 et 15. Et lui était donc son fils. C'est une bonne compagnie d'avoir un tel frère qui est 100% pour le Seigneur. Là, on est en bonne compagnie. Mais il est le fils de son frère plus jeune, ou en tout cas, il est plus jeune que Caleb. Il n'a pas peut-être la même qualité, mais justement, Dieu se sert de ses vases inférieurs dans ce livre-là. Othniel, c'est vraiment un homme de Dieu, mais quand même un peu inférieur comparé avec Caleb. Plus loin, on va voir Ehud, qui était gaucher. Shamgar, qui avait un aiguillon pour délivrer le peuple. Donc, ce sont des vases, et plus loin, dans chapitre 4, on va voir une femme. Et un homme qui était très timide, Barak, et même pas seulement timide, mais il avait beaucoup de peur. Donc, on voit des vases que Dieu utilise dans ces jours de ruine, qui ne sont pas tellement éminents. Dieu ne veut pas diriger l'attention au vase comme tel. Dieu veut diriger l'attention à lui-même, qui a utilisé ce vase-là. On voit le même principe, même en rapport avec l'apôtre Paul. J'ai pensé à 2 Corinthiens 12. Vous voyez, même l'apôtre Paul, un vase par excellence, même là, il a appris le même principe. 2 Corinthiens 12, on ne peut pas étudier tout le passage, mais on voit donc que le Seigneur a dit, dans le verset 9, il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Voilà, l'infirmité du vase donne une occasion spéciale pour que la puissance de Dieu agisse. Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est ça le principe. Le vase infirme, inférieur peut-être même, comme dans le cas des juges, mais c'est la puissance de Christ qui demeure sur moi, qui est au-dessus de nous, qui est en nous aussi. Et c'est ça qui donne la délivrance. Donc Dieu veut pas diriger l'attention vers le vase comme tel, mais vers lui-même qui est à l'origine. C'est lui qui a suscité les juges. C'est lui qui l'a formé. Verset 10 nous souligne ceci. L'Esprit de l'Éternel furent sur lui. C'est le parallèle avec 2 Corinthiens 12. La puissance de Christ a demeuré sur Paul. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui. Et puis, deuxièmement, il jugea Israël. C'est régler les choses selon Dieu, juger. Et puis, ainsi, il les a sauvés. Ça, c'est important. C'est pas seulement les délivrer de l'ennemi. Mais je pense, il a réglé les choses selon les pensées de Dieu. Et puis, il sortit pour la guerre. Maintenant, la guerre de laquelle on a parlé au début, il était formé pour ça, par les ressources que Dieu lui a données. Comme nous avons vu, ces ressources d'eau, et l'Éternel livra en sa main Cushan-Ri Satan. C'est l'intervention de Dieu, de nouveau. Et puis, c'était définitive, et sa main fut forte contre Cushan-Ri Satan. C'était donc une victoire définitive, pas juste une attaque, et puis c'était fini. Non, sa main fut forte. Ça veut dire que le roi de Cushan-Ri Satan ne pouvait rien faire contre lui. Et le sixième point, verset 11, le pays fut en repos 40 ans. C'est le résultat maintenant.